Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Marie-Andrée. Bonjour Farley. Allô Sylvia. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à la sœur Florie. Il y a d'autres personnes qui sont connectées, mais je ne les vois pas. Sylvia, please greet Pastor David for us also. Bonjour à mon père, à ma mère. Je ne sais pas si Marlène et puis Leandro sont branchés avec vous ce matin. On les salue aussi. Leur journée ensoleillée, c'est pour ça que vous voyez un peu de contre-jour derrière. On s'en excuse. Bonjour Immaculate. Bonjour Rosie. Alors comme vous êtes la première représentante française sur place actuellement, puisque Marlène et Leandro sont à Montréal, mais Bernadette, Rosie, en fait, on vous salue et on vous souhaite une bonne fête nationale, 14 juillet aujourd'hui. Fête de tous les Français. Alors ce soir, probablement feu d'artifice en ville. J'espère que vous aurez du bon temps, je suppose, avec la famille un peu aussi. Bonjour Pascal. Bonjour à Jean-Bernard et bien entendu, bonjour à maman Angela. Bonjour Denise, bonjour Gérard. En général, le 14 juillet, il y a deux choses importantes. Le feu d'artifice, bien sûr, en soirée. Avec tous les cérémoniums militaires qu'on commémore aussi à cette occasion-là. Et de surcroît à cela, il y a l'étape du Tour de France où on espère toujours que ce soit un compatriote français qui remporte l'étape. Donc je ne sais pas où ils en sont rendus. Aujourd'hui, je sais que c'est encore Bocaja ou Bojaca ou quelque chose comme ça, le nom du maillot jaune actuellement. Mais je ne sais pas s'ils ont fini les Alpes ou autre. Donc on espère que vous aurez un vainqueur d'étape au moins français aujourd'hui. Marie-Marthe, bonjour. Julie, bonjour. La belle-mère, bonjour. Daphné travaille aujourd'hui. Ce n'est pas journée fériée au Canada. C'est congé simplement en France. Vous traversez la frontière vers l'Allemagne et vous êtes au travail. Vous allez vers la Belgique, vous êtes au travail. De ce côté-ci de l'Atlantique, c'est journée normale. Tout à l'heure, on a salué mon père et ma mère. On salue maintenant ma mère et mon père. Et encore une fois, on salue les Français qui sont chez eux actuellement. La frangine et le neveu. Je ne sais pas si vous allez souligner d'une façon particulière le 14 juillet ici à Montréal, mais bonne fête nationale à vous. Soraya, j'espère que tu vas mieux. Soraya qui a été malade ces derniers jours. J'espère que tu te portes mieux, Soraya. Que Dieu te bénisse. Et puis, bonne fête nationale aussi, même si maintenant tu as la double nationalité. 14 juillet. Bonjour à Benjamin et aux garçons. Nathalie, bonjour. Lucie, bonjour. Rachel, bonjour et bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Donc aussi il y a Chantal, Mona, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, il fait un peu frais dehors, mais c'est ensoleillé. Donc, j'espère que vous pourrez prendre un peu le soleil aujourd'hui. Bonjour au frère Frédéric qui nous regarde de la belle, belle ville de Abidjan. Babi pour les intimes. Que Dieu vous bénisse, frère Frédéric. Bien des choses à votre épouse aussi. Shalom, shalom. Assurément, sur le Mont-Royal, il y aura aussi des compatriotes français. Soraya, moi de même. Depuis le week-end. De très mauvaises nuits les unes après les autres, mais hier soir j'ai augmenté un peu la dose des médicaments et j'ai eu une meilleure nuit. On fait aussi attention à ce qu'on mange pour éviter un maximum de reflux, même si ça veut rien dire en fait. Mais bon, donc hier soir ça a été un peu mieux alors. Je me réjouis pour toi et je me réjouis pour moi-même. Chantal, bonjour. Bonjour aussi à Léo. Hermano Edwin, que Dios me le bendiga. Marie-Huguette, bonjour. Que Dieu te bénisse aussi, Chantal. Encore une ou deux minutes et on va commencer. Merveilleuse journée aujourd'hui, Gérard, pour vous. La journée la plus importante de votre vie est survenue il y a 45 ans, alors. Soyez bénis. Gérard qui nous dit qu'il y a 45 ans. En fait, c'est son épouse Denise qui nous dit qu'il y a 45 ans, Gérard a accepté Jésus comme son Seigneur dans sa vie. Merci Chantal. Marie-Huguette, merci. Bien des choses à Leïka, Gaëlle et aux filles. Aux petites filles plutôt. Petites grandes filles. Tu sais ce que je veux dire. Alors, on vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Et on va lire du verset 6 au verset 22. De Timothée 4, du verset 6 au verset 22. Encore une minute et on va débuter. « Je ne sais pas si le frère Gilles va nous regarder ce matin. C'est l'anniversaire de son épouse aujourd'hui, la sœur Joanne. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Et si Gilles nous écoute aujourd'hui, en direct ou en différé, merci Gilles de transmettre nos salutations à Joanne et nos voeux de joyeux anniversaire. Et comme c'est une dame, je ne révèle pas son âge. C'est indélicat. Babette, Andrea, c'est la famille. Bonjour. Alors, prions et on va commencer. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, pour ton esprit, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. On te demande Seigneur de nous visiter durant ces quelques prochaines minutes alors que nous plongeons dans le regard de ta parole. Ouvre notre intelligence, notre compréhension afin de recevoir pleinement ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Que ces échanges, Seigneur, se partagent, soient productifs dans notre vie. Que celui-ci, Seigneur, avec ce qu'il nous enseigne, puisse s'enraciner en nous, croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. On te demande, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui se joignent à nous de façon live ou en direct et ceux qui nous rejoindront plus tard en différé. Que ta grâce, que ton onction, que ta présence soient manifestes dans la vie des uns et des autres. Nous t'avons prié pour ta gloire et pour ton honneur, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le long texte de 2 Timothée au chapitre 4, du verset 6 au verset 22. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti à Thessalonique. Crésence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors vous savez que ça fait déjà 2-3 semaines qu'on étudie ce passage avec différents angles. La première semaine, on a parlé de la différence particulière entre Démas, celui que Paul, celui dont lequel Paul parle en disant qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. Et on a vu la dichotomie entre la vie de Démas et la vie de Paul. Paul qui va dire qu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a combattu le bon combat par amour pour l'avènement de Christ, par amour pour la résurrection, et puis le retour de Christ parmi nous, et Démas qui lui va décider de retourner vers Thessalonique, la ville où tous les problèmes de Paul ont commencé, va retourner là-bas par amour pour le siècle présent. Et lorsque Paul en parle, le terme qu'il utilise pour abandonner, parce que Démas m'a abandonné, c'est le terme déserteur. Alors c'était un enseignement qui nous disait qu'on devait tous faire attention, le faux pas de Démas, on n'est pas à l'abri. Et oui, effectivement, on peut être dans le corps de Christ et se comporter comme un déserteur et fuir nos responsabilités envers Christ, mais fuir aussi notre engagement envers nos frères et nos sœurs en la foi. La deuxième semaine, et c'est cette semaine en fait, on est en train de parler sur le fait qu'il faut veiller à bien s'entourer. Et on prend chacun des noms de personnes que Paul avait auprès de lui. Il va dire que tous l'ont abandonné et que dans sa première défense, il était tout seul. Malgré tout, il parle de certaines personnes qui sont sur le point de venir le retrouver. Timothée, qu'on a vu lundi, qui veut dire « qui honore Dieu ». Et c'est un enseignement pour nous, afin que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quelle que soit la position qu'on prend dans l'œuvre de Dieu et dans le corps de Christ, que ce soit en raison de l'honneur qu'on veut qu'il soit voué à Christ. Et on a vu que certaines fois, on peut travailler et celui qu'on cherche à honorer n'est pas le Seigneur en soi, mais plutôt nous-mêmes. Paul va le dire de façon beaucoup plus allégorique, voire tranchante, en disant qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour leur propre ventre et qui, de ce côté-ci de l'éternité, ont donc déjà reçu leur récompense. Que ce soit parce qu'ils voulaient être connus, que ce soit parce qu'ils voulaient être célèbres, que ce soit parce qu'ils voulaient un gain financier par rapport au service qu'ils exécutaient. On dit de ces personnes donc qu'elles ont déjà reçu leur récompense et que leur ventre a été récompensé. Timothée était quelqu'un qui honorait Dieu à l'instar de son père spirituel. Paul, qui va être capable de travailler dans les bons comme dans les mauvais moments, dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut donc dire que Paul et Timothée, par conséquent, ne cherchaient pas le profit personnel. Paul va même aller jusqu'à dire qu'il s'est fait tout à tous, abandonnant ce qu'il avait, abandonnant ce qu'il était, pour au moins en gagner quelques-uns. Hier, on a vu deux autres personnages qui sont soit près de Paul ou que Paul fait venir à lui. Luc, Lucas en grec, qui veut dire « qui apporte la lumière », une des caractéristiques de ceux qui doivent nous entourer dans le service de Dieu, mais de surcroît cela, une des caractéristiques que nous devons avoir en tant que serviteurs de Dieu pour les gens qui nous entourent, c'est justement cette capacité à amener la lumière, à changer les ténèbres en lumière, que ce soit en apportant la parole de Dieu, que ce soit en apportant la clarté des Écritures, que ce soit en dissipant les œuvres de l'ennemi, en dévoilant les œuvres de l'ennemi. Hier, on a vu deux doctrines, notamment du diable, de démon. La Bible va nous dire certaines doctrines qui nous amènent dans l'erreur, voire dans la faillite spirituelle. On a parlé d'un côté de cette doctrine qui, dans l'Église traditionnelle, parle d'un purgatoire et qui laisserait aux gens la chance de se rattraper de l'autre côté de l'éternité si, de ce côté-ci, ils n'ont pas fait tout ce qui était nécessaire pour prendre part au salut. De l'autre côté, on a donc parlé de cette doctrine qui dit que avant même notre naissance, on serait choisi pour le salut ou pour la condamnation éternelle. Alors, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, de toute manière, ce qui doit arriver va arriver et certains seront sauvés et d'autres iront en enfer par le choix divin. Cette doctrine-là est une erreur. Et le danger, c'est que ça pousse le croyant à ne pas prendre ses responsabilités d'évangéliste, à ne pas prendre ses responsabilités de porte-voix du royaume. Pourquoi? Parce que de toute manière, il se dit que peu importe ce qui va se passer, ce qui doit arriver va arriver, ceux qui doivent être sauvés sont déjà préétablis pour être sauvés. Alors ce matin, on continue avec d'autres personnages au verset 21 que je lis pour vous. On voit des gens qui sont autour de Paul qui est à Rome. Je vous rappelle, dans ses derniers jours, la condamnation a été prononcée. Il demande à Timothée de venir le rejoindre au plus vite, ne sachant pas combien de temps il lui reste. Et il dit au verset 21, tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Donc quatre personnages qui sont nommés, d'autres qui restent inconnus, Eubulus, Pudens, Linus et Claudia. Et comme on l'a fait pour les autres personnages qu'on a étudiés cette semaine, chacun des noms ici dans le verset 21 est aussi un enseignement. Un enseignement du type de personne qu'on devrait avoir autour de nous lorsqu'on aspire au travail de Dieu. Paul avait une équipe à ses côtés, avait des fils spirituels, des filles spirituelles avec lesquelles il travaillait. Dans certains cas, et on va le voir la semaine prochaine, il y a des gens qu'il a envoyés le représenter, prendre charge d'une part de l'œuvre que le Seigneur avait mise entre ses mains, mais dans une proximité rapprochée, dirons-nous, il avait des gens, et on a vu Luc, on a vu Marc, on a vu Timothée qu'il voulait à ses côtés. Et on voit ici ce matin Eubulus, Pudence, Linus et Claudia. Eubulus était un chrétien de Rome. On n'a pas beaucoup de renseignements à son égard. Il n'apparaît qu'une seule fois dans la parole de Dieu et c'est donc dans cette occasion où Paul dit à Timothée, voici des personnes qui sont avec moi, qui te connaissent et qui te saluent, toi Timothée, mon fils spirituel, qui est en route vers Rome. Eubulus veut dire prudent. Et dans le service de Dieu, ça nous prend aussi de la prudence. La foi est une chose, être téméraire en est une autre. Être courageux est une chose, être téméraire en est une autre. On voit souvent peut-être plus dans les jeunes générations, on voit souvent une confusion qui règne entre le courage et la témérité. Le courage, qu'est-ce que c'est? Le courage, c'est d'avoir des peurs, mais d'être capable de dépasser ces peurs pour continuer à travailler. La témérité, c'est ne pas être conscient du danger et faire fi du danger. Le courageux est tout à fait conscient de ses peurs. Celui qui fait preuve de courage, par conséquent, manifeste en même temps sa peur. Il dit, voici, j'ai peur de telle chose, mais j'affronte la chose et je ne me laisse pas freiner par mes peurs, par mes craintes, par mes terreurs. Le téméraire, lui, c'est, je n'ai aucune peur, je n'ai aucune frayeur, il n'y a rien qui ne me décourage, je vais de l'avant, coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe ce qui doit arriver. Paul avait à ses côtés quelqu'un qui s'appelait Pudens, quelqu'un qui était nommé prudent. Et dans le service de Dieu, ça nous prend effectivement des gens qui sont prudents, des gens qui sont capables d'analyser le danger, des gens qui sont capables de regarder notre marche, notre parcours et de dire « fais attention parce que… » Je m'excuse. « Fais attention parce qu'en mettant les pieds là-bas, voici ce qui peut arriver. » Ou « fais attention parce qu'il y a tel ennemi qui peut te guetter à tel endroit. » « Fais attention parce que si tu t'avances dans tel chemin, voici les dangers qui te guettent. » Il est toujours important d'avoir ce genre de conseils autour de nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne continue pas à avancer. Ce qui ne veut pas dire que l'œuvre cesse et qu'on fasse du surplace et le statu quo. Non, on continue à avancer, mais avec les oreilles ouvertes, on continue à avancer avec les yeux ouverts, on continue à avancer en sachant qu'il y a des pièges et des traquenards. C'est un peu comme l'armée qui se déploie dans une terre qu'ils viennent de gagner. Surtout quand on parle d'un combat moderne, on se rend compte que les premiers corps militaires qui passent au-devant de l'ensemble des militaires, ce sont très souvent les démineurs. Donc ils se disent, voici, on vient de gagner un territoire, mais ce territoire reste dangereux, il reste des pièges qu'on appelle des mines antipersonnelles, et on voit ces hommes qui sont habillés avec toute cette protection sur eux, et qui avancent et qui détectent ou qui tentent de détecter les mines qui ont été enfouies, cachées, laissées par l'ennemi qu'on a fait déserter et qu'on a fait fuir. Et pour nous, ça nous prend ce même genre de serviteur à nos côtés. Et parfois, la prudence n'est pas de mise chez nous tous. Donc, c'est important d'avoir autour de nous des gens qui nous rappellent à l'ordre et qui nous disent, Florent, fais attention si tu vas dans tel secteur, ça se pourrait qu'il y ait tel ou tel danger qui te guette. Ça ne veut pas dire que le danger est là, ça ne veut pas dire qu'on va tomber, mais ça veut dire qu'on avance avec les yeux ouverts, avec l'esprit vif, qu'on avance en étant aux aguets, comme quoi il se pourrait qu'il y ait effectivement un danger sur la route. Important d'avoir ce genre de personnes à nos côtés, mais important pour nous aussi d'être ce genre de personnes en danger, d'être ce genre de personnes pour les gens qui nous entourent. Je dis parfois, parce que j'avais la pensée de ma prochaine phrase, je dis parfois qu'un chrétien doit porter assistance aux personnes en danger. Quand on voit un frère et une sœur qui est menacé par un piège, par un traquenard, par un plan de l'ennemi, il est inconcevable et il est tout à fait incorrect de rester les yeux fermés. Assurément, tout le monde n'est pas ouvert à recevoir des remontrances. Très souvent, le danger qui nous guette, c'est justement notre imprudence et c'est justement nos faux pas, pas ceux du diable, les nôtres, qui nous mettent en danger nous-mêmes. Et très souvent, lorsque quelqu'un arrive en disant, regarde, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas correct, tu te mets Dieu à dos, tu te mets la parole de Dieu à dos, tu enfreins les règles et la pensée de Dieu, et tu amènes les proches avec toi dans une sphère dangereuse. Très souvent, les gens ont de la misère à vouloir entendre ce discours. Ils aiment quand on approuve, ils aiment quand on applaudit, ils aiment quand on met l'aval d'approbation, mais ils n'aiment pas beaucoup, ils sont frileux à recevoir certaines remontrances qui disent, regarde, depuis un certain temps, je te regarde et tu es en train de dévier. Voici ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Voici ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas appuyé par la parole de Dieu. Et ça souvent entraîne un malaise auprès de nos frères et de nos sœurs. Alors sachons deux choses. Sachons d'une part être prudents pour nous-mêmes. Sachons être prudents aussi pour ceux qui nous entourent. Et la prudence devrait être accompagnée, bien entendu, de paroles de connaissance et de paroles de sagesse. Certains pensent que la franchise qui devrait régner dans le corps de Christ permet de dire un peu n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Certains se targuent d'être francs au profit de ceux qui seraient menteurs ou hypocrites. Ils disent, au moins je ne suis pas menteur. Au moins, je ne suis pas hypocrite. Non, mais avec tes paroles, tu es en train d'assassiner des gens malgré tout. Tu dis peut-être la vérité, mais tu ne dis pas la vérité avec l'esprit qui se doit, avec l'attitude qui se doit, avec le ton qui se doit. Il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour reprendre, il y a un temps pour corriger. Paul va nous dire que toute parole est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger. Ce sont trois niveaux de parole. C'est la même franchise. C'est le même message, mais à l'occasion, c'est pour enseigner, à l'occasion, c'est pour reprendre, et plus tard, c'est aussi pour corriger. On n'est pas toujours en train de corriger, on n'est pas toujours en train de reprendre, on n'est pas toujours en train d'enseigner. Il faut être guidé par l'Esprit Saint et savoir adapter le ton, l'humeur, la façon de s'exprimer pour que le message passe. Et nous, en tant que croyants, sachant qu'il nous faut être prudents, sachant aussi recevoir les paroles de ceux qui nous entourent. Celui qui ne veut pas recevoir de remontrances, celui qui ne veut pas recevoir de conseils, celui qui est réfractaire à toute parole qui dit voici ce que tu es en train de faire est mauvais, ou à toute parole qui dit voici ce que tu es en train de faire, tu pourrais mieux le faire, ou voici ce que tu es en train de faire est tout à fait incorrect. La personne qui s'oppose systématiquement à tout cela, c'est l'orgueilleux. On ne peut pas dire qu'on est enseignable, entre guillemets, le terme n'existe pas, je crois, mais je l'utilise malgré tout. On ne peut pas dire être enseignable et ne pas être prudent. Être enseigné, ne pas être, ou on ne peut pas dire être enseignable et ne pas recevoir l'enseignement par qui Dieu veut que cet enseignement rentre. Donc, restons prudents pour nous-mêmes, soyons prudents pour les autres et acceptons aussi les paroles de prudence qui nous sont données par ceux qui nous entourent. Donc, Paul avait Eubulus, qui était prudent. Il avait aussi pudens, poudès en grec, qui veut dire, avant je vais expliquer qui c'est, on nous dit que pudens est donc un chrétien de Rome, puisque c'est le seul endroit où on le voit, mais on mentionne aussi que pudens aurait pu faire partie des 70 disciples de Jésus. Il y a eu 12 apôtres à l'époque de Jésus. Il y avait 12 intimes. Parmi ces intimes, il y en avait même qui étaient encore plus proches. On sait que les plus proches de Jésus étaient Pierre, Jean, Jacques et André, qui étaient ceux qui l'ont accompagné dans la plupart des rencontres qu'il avait, dans la plupart des étapes que Jésus a eu à franchir sur cette terre. Mais au-delà de ces quatre, il y avait les 12. Et au-delà des 12, on parle qu'il y avait un groupe de 70 qui était toujours rapproché de Jésus. Et la tradition, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, nous dit que Poudès aurait pu être un de ces 70. Ce qui est intéressant ici, et ça va mettre de l'emphase sur la traduction ou la signification du nom de Pudens Poudès. Ce qui est intéressant ici, c'est que si effectivement Pudens a été un des 70, vous savez que Paul n'a pas été un des 70. Paul s'est converti après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, environ 20 ou 30 ans après que Jésus soit mort et enlevé vers le ciel. C'est là que Paul s'est converti. Pudens avait donc une longueur d'avance sur Paul. Et malgré tout, ici, un peu incognito, il est mentionné par Paul. Paul savait s'entourer donc de ces gens d'expérience, qui n'étaient peut-être pas flamboyants, qui n'étaient peut-être pas célèbres et populaires, mais qui avaient cet acquis d'expérience qui était nécessaire au service de Dieu. Mais de surcroît, ça parle aussi beaucoup de Pudens lui-même. Il aurait pu regarder Paul en disant, mais regarde, moi j'étais là avec Jésus, toi tu ne l'as pas connu. C'est vrai qu'il t'est apparu sur le chemin de Damas, mais moi j'ai fréquenté Jésus pendant son ministère actif. J'étais là lorsque il est apparu aux disciples. J'étais là lorsqu'il a été enlevé vers le ciel. Où étais-tu, toi? Pudens aurait pu dire, regarde, moi j'ai toujours été fidèle. Depuis le jour où j'ai commencé à le suivre, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, alors que toi, tu as été un persécuteur de l'Église. Donc, Pudens a été capable de laisser de côté ses acquis pour être un proche, un aidant de Paul, surtout dans ces moments difficiles qu'il traverse, puisqu'on sait que Paul est rendu à ce moment-là, de son existence, vers sa mort. Donc, Pudens laisse la gloire d'être un des 70 pour être à côté d'un croyant de deuxième génération, d'un ancien persécuteur de l'Église, et il dit, moi, je vais servir à tes côtés. Pourquoi Pudens a-t-il été capable de faire cela? Son nom veut dire modeste, humble. Dans le service de Dieu, ça nous prend des gens modestes et humbles. On disait tout à l'heure que les personnes qui refusent les exhortations à la prudence, les gens qui refusent les remontrances sur les erreurs qu'ils sont en train de faire, à la base, c'est un signe d'orgueil. Ici, on va mettre une couche supplémentaire sur cette notion en disant, voilà, Pudence, un des proches de Paul, était remarquable de par son humilité et sa modestie. Il nous faut, dans le service de Dieu, faire preuve de modestie et d'humilité. Il y a des gens qui entrent dans le service de Dieu pour devenir des grands quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'à moins qu'ils ne deviennent pasteurs, qu'à moins qu'ils ne soient dans une certaine sphère du service de Dieu, ils ne sont donc rien du tout. Et ils aspirent donc à gravir, entre guillemets, les échelons du service de Dieu, tout simplement, non pas pour honorer Dieu, comme Timothée cherchait à le faire, non pas pour être utile au royaume de Dieu, mais plutôt pour être reconnu par leur Père, être reconnu par l'ensemble du corps de Christ. Et c'est là où c'est important de s'interroger, à savoir pourquoi j'aspire au ministère. Quelles sont les raisons véridiques, les raisons profondes de mon désir de servir. Et c'est là où c'est Dieu qui doit parler. Parce qu'on est capable de se mentir à soi-même. Certaines personnes vont dire, oui, mon seul objectif, c'est d'honorer Dieu. Mais foncièrement, dans la pratique, dans le fond du cœur, on se rend compte que l'objectif qui est recherché est Dieu qui est capable de lire les pensées, les motivations, le cœur, les intentions. Lui qui est capable, à juste titre, de les identifier. Il est capable de nous dire, regarde Florent, ce pourquoi tu fais les choses aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma personne, ce n'est pas l'avancement de mon royaume. La seule chose que tu cherches aujourd'hui, c'est ta gloire. La seule chose que tu cherches aujourd'hui, c'est ta renommée. La seule chose que tu cherches aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Et c'est là où je disais il y a quelques jours que parfois, on fait partie de la noblesse chrétienne. Il y a des gens qui deviennent un peu les monarques d'un petit royaume, les monarques d'une petite église, les monarques d'une certaine œuvre, que ce soit le monarque en chef ou que ce soit les monarques collatéraux. Donc parfois on est fils de pasteur et là on pense qu'on est quelqu'un parce qu'on est membre de la famille pastorale. Parfois on est épouse ou époux de quelqu'un qui sert et là on pense qu'on est un grand quelqu'un parce que notre conjoint ou notre conjointe sert dans le corps de Christ. Nous devons faire preuve d'humilité. Celui qui fait preuve d'humilité, c'est celui qui va toujours aspirer à servir et non pas à être servi. Christ va nous donner ce parfait exemple dans ses dernières heures avant qu'il ne soit arrêté et crucifié. On se rend compte que Jésus va laver les pieds de ses serviteurs. Et j'aime cette histoire parce que ça nous démontre comment devrait être le serviteur selon la pensée de Dieu. Jésus va dire, c'est pas parce que je fais telle chose que je suis moins grand. C'est pas parce que le maître est en train de servir ses serviteurs qu'il n'en est pas pour autant maître. Jésus a toujours été supérieur à ses serviteurs. Mais dans ce moment important de la Pâque, dans ce moment important précédent son arrestation, l'exemple qu'il va donner à ses disciples, puisqu'il va dire ce que vous m'avez vu faire maintenant à l'instant, je vous demande de vous le faire les uns les autres. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va se défaire de ses vêtements, va prendre une serviette qu'il va s'attacher à la taille, prendre une bassine d'eau et aller laver les pieds de ses disciples. Et je rappellerai que cet acte du lavement des pieds se faisait habituellement à l'arrivée dans une maison. Et c'était l'esclave le plus bas parmi tous les esclaves qui lavait les pieds de ses serviteurs ou des visiteurs et des personnes qui venaient. Et Jésus, donc, ici, va prendre l'image du plus vil des esclaves, du plus bas de toute la hiérarchie des esclaves pour laver les pieds de ses propres disciples. Un serviteur qui se délaisse, ou qui délaisse plutôt son statut de gloire, pour venir marcher ici-bas sur terre. Christ, qui est le roi des rois, le roi de gloire, le roi d'éternité en éternité, qui dit qu'il n'a pas vu comme étant une chose honteuse de délaisser la gloire du royaume de Dieu pour venir ici-bas sur terre et mourir, en fait, comme le plus vil des pécheurs. Jésus est l'exemple parfait de ce maître qui sert, de l'attitude qu'il nous faut avoir. Malheureusement, très souvent, il y a des gens qui vont enseigner avec cette attitude un peu de parvenu. Je t'enseigne parce que je sais plus que toi. Je t'enseigne parce que tu es l'ignorant. Je t'enseigne et on sent l'orgueil qui émane de cet enseignement-là. Je vous enseigne à vous, faible mortel, je vous enseigne à vous, faible pécheur, je vous enseigne à vous, faible ignorant que vous êtes, et à moins que je ne sois avec vous, vous restez des ignorants. Il y a des gens qui acquièrent une connaissance, que ce soit par les études ou par l'enseignement qu'ils reçoivent d'autrui, et une fois qu'ils ont cet enseignement, ils se croient supérieurs à tous. Je me rappelle, et je suppose qu'on a tous été un peu dans cette attitude-là, mais je vous confesse un truc. À un moment donné, je suis à l'école, et puis je performe assez bien dans mes études. J'étudie en littérature française, j'ai des bons résultats, je suis un des bons étudiants de la classe. Je commence à étudier la philosophie, les penseurs et tout ça. J'ai une connaissance générale qui s'accroît. Et l'attitude que j'avais par rapport à ceux qui étaient autour de moi devenait pédante, devenait orgueilleuse, vaniteuse. Mais il y avait un bon truc pour me ramener sur le plancher des vaches. C'est ce qu'on appelait le jeu Trivial Pursuit. En tout cas, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Les arpents, je ne sais pas trop quoi, là, dans la version québécoise, je crois. En tout cas, c'était un jeu de connaissances générales. Et nous, on avait l'habitude en famille de jouer justement à ces jeux de société pendant des soirées entières. Et la personne la meilleure, ou celui qui gagnait pratiquement toujours, c'était mon père. Et régulièrement, moi qui arrivais du lycée avec mes nouvelles connaissances, avec mes nouveaux mots bien compliqués, avec mes nouveaux penseurs qui meublaient mon raisonnement, très souvent je me disais « Ah, je vais me mesurer à lui et je vais le battre. » Et presque toujours, c'était lui qui nous l'avait à ce jeu-là. Et c'était pour moi un moyen de me ramener les pieds sur terre. Faisons attention lorsque nous commençons à apprendre, que l'humilité ne nous quitte pas. Lorsque nous commençons à connaître, que l'humilité ne nous quitte pas. J'aime dire régulièrement lorsque je prêche, que lorsque je prêche aux gens, Dieu m'a prêché à moi avant. Que lorsque j'enseigne quelque chose aux gens, c'est que le Seigneur m'a enseigné la même chose durant la semaine. Que lorsque je partage sur l'humilité aux gens, ben c'est parce que Dieu m'a parlé sur l'humilité pendant la semaine. Faisons attention de rester des étudiants, faisons attention de rester humbles, faisons attention de rester courtois, faisons attention de rester modestes dans notre attitude, dans notre façon d'être et dans notre approche avec ceux qui nous entourent, que ce soit l'ensemble du corps de Christ ou que ce soit les gens au-delà du pourtour de l'Église. Il est important d'avoir de la modestie. Alors demain, on va s'arrêter là, il est déjà 9h05, demain on va terminer avec Linus, avec Claudia. Je sais que lorsque j'ai prêché sur le thème, sur cette thématique-là il y a 2 semaines, beaucoup, beaucoup, beaucoup ont été touchés par la thématique de Claudia. Donc c'est ça qu'on va voir demain, notamment. Alors prions. Seigneur, on veut te rendre grâce parce qu'effectivement, tu nous enseignes encore aujourd'hui sur la modestie, sur l'humilité qui doit habiter le serviteur de Dieu, qui doit habiter tout enfant de Dieu. Tu nous appelles, Seigneur, à être prudents. Et la prudence vient souvent par le fait d'être ouvert à écouter les autres qui nous disent « Voici, tu t'en vas vers un chemin périlleux. » Voici ce que tu fais n'est pas bon. Voici ce que tu fais n'est pas agréable devant le Seigneur. Permets-nous, Seigneur, effectivement, de ne pas être téméraires, de ne pas être imbus de nous-mêmes, pensant que nous sommes détenteurs de la science infuse, et d'avancer sans même être conscients du danger qui nous guette. Et le danger n'est pas tout le temps autour de nous. Parfois, le danger est à l'intérieur même de nous par l'orgueil et la vanité qui revient si facilement de l'avant. Permets-nous donc, Seigneur, d'être comme Eubulus, prudent. Prudent pour nous-mêmes, mais aussi prudent pour ceux qui nous entourent. Permets-nous de surcroît, Seigneur, à être aussi comme Pudence, modeste, humble, que nous comprenions que nous sommes serviteurs et que tu es maître, et que nous sommes serviteurs les uns des autres. Permets-nous de nous rappeler l'exemple d'humilité parfaite que tu nous as donné, en délaissant pour un temps la gloire céleste et en venant ici-bas marcher comme un homme de vile apparence et mourir comme le plus vil des pécheurs attachés à la croix. Et de surcroît à cela, alors que tu dirigeais tes disciples, ton groupe d'ouvriers, de serviteurs, tu les dirigeais depuis maintenant presque 3 ans, et malgré tout, tu t'es débarrassé de toute la gloire qui accompagne le fait d'être maître, et tu t'es abaissé pour laver les pieds de tes serviteurs. Pas en faisant semblant, mais en ayant pleinement, totalement, adéquatement l'attitude, le cœur qui se doit. Seigneur, qu'on ne tombe pas dans une fausse humilité où on berne les gens, mais que nous soyons effectivement remplis d'une humilité et d'une modestie qui t'honore et que tu peux approuver ou sur laquelle tu peux mettre ton sceau d'approbation comme étant authentique. Alors je prie, Seigneur, que tu trouves chez nous des gens prudents, que tu trouves des gens modestes et humbles. Travaille, Seigneur, sur cela durant cette journée. Montre-nous ces endroits de notre existence où nous sommes vaniteux, orgueilleux. Montre-nous ces endroits de notre vie où nous sommes imprudents, où nous nous mettons en danger et par conséquent, où nous mettons aussi en danger ceux qui nous entourent. Qu'on ne soit point une pierre d'achoppement pour ceux qui nous entourent, afin de les faire trébucher par notre mégarde, par notre orgueil, par notre imprudence, par notre manque d'humilité. Nous t'avons prié en sachant que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc demain matin pour la suite des choses. On a encore 2 noms, plus une 3e personne qu'on va mentionner demain, de qui Paul savait s'entourer ou de qui Paul voulait être entouré. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous. On se retrouve demain, 8h30, pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. Au revoir tout le monde. Thank you.